Vous écoutez France Culture.
Gérard Collomb sur le grill, devant la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, le ministre de l'Intérieur se défend de toute faute personnelle dans la gestion de ce dossier qui secoue, faut bien le dire, la Macronie. Stéphane Robert décryptera pour nous les explications plus ou moins convaincantes de Gérard Collomb. Opération inédite d'Israël, l'évacuation de casques blancs aux frontières syriennes, israéliennes et jordaniennes. Nous retrouverons en direct de Jérusalem Marie Semelin. Les États-Unis lancent une offensive médiatique contre l'Iran pour symboliser le soutien de l'Amérique au peuple soumis à un régime mafieux, selon les termes de Mike Pompeo, le secrétaire d'État. Une arme de plus dans l'arsenal déployé par l'administration Trump. Nous poserons la question dans ce journal à Valérie Crova. Et au sommaire de la grande table, tout à l'heure, Maëlys Besry.
Nous allons parler de design et de l'union des artistes modernes à l'occasion de l'exposition que leur consacre le centre Georges Pompidou, avant de faire le portrait de la chanteuse Jeanne Haddad.
Rendez-vous à 12h45. Gérard Collomb s'explique donc sur l'affaire Benalla. Le ministre de l'Intérieur est entendu depuis maintenant 2h30 par la commission des lois de l'Assemblée nationale, transformée en l'occurrence en commission d'enquête sur le scandale d'État qui secoue la Macronie. Comment un proche du président, conseiller à l'Élysée, en principe sur le terrain en tant que simple observateur, a pu tabasser des manifestants le 1er mai dernier? Des faits révélés par Le Monde qui secouent le sommet du pouvoir. Les sanctions prises à l'origine à l'encontre d'Alexandre Benalla paraissent bien dérisoires en regard de la gravité des faits constatés. Depuis, bien sûr, la justice a fait son travail. 5 personnes sont mises en examen dans le cadre de cette affaire. Stéphane Robert, vous suivez l'audition de Gérard Collomb pour France Culture. En gros, le ministre se défend d'avoir commis quelque faute que ce soit dans la gestion de ce dossier.
Oui, le ministre de l'Intérieur s'est effectivement défendu pied à pied devant les députés et n'a reconnu aucun manquement de sa part dans cette affaire. Question d'abord, est-ce qu'il connaissait Alexandre Benalla et savait-il quel était son rôle auprès d'Emmanuel Macron? Réponse.
J'avais déjà rencontré Monsieur Benalla lors effectivement de services d'ordre. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je croyais même que c'était quelqu'un qui faisait plutôt partie des services de police. Je ne l'avais jamais rencontré. J'ignorais. Enfin, je l'avais rencontré, mais j'ignorais sa qualité de conseiller du président de la République.
Voilà, pour Gérard Collomb, oui, c'était quelqu'un qui avait quelque chose à voir avec la sécurité d'Emmanuel Macron, mais que faisait-il précisément? Mystère.
Alors maintenant, sur ce qui s'est passé le 1er mai très précisément, place la contre-escarpe à Paris. Des éléments nouveaux?
Oui, a-t-il eu connaissance des agissements d'Alexandre Benalla et à quel moment? Et si c'est le cas, pourquoi n'a-t-il pas saisi la justice comme la loi l'y oblige? Réponse, oui, il en a eu connaissance le lendemain après-midi, le 2 mai donc, et il en est informé par son directeur de cabinet et par son chef de cabinet.
Mon directeur de cabinet, mon chef de cabinet, m'indique s'être déjà entretenu et avoir informé le préfet de police et avoir porté cette information à la connaissance du cabinet du président de la République, ce qui est une démarche tout à fait appropriée, puisque c'est à l'autorité hiérarchique de prendre toutes les mesures qui s'imposent sur le plan administratif comme sur le plan judiciaire. La responsabilité d'un ministre de l'Intérieur, c'est de veiller à ce que chaque événement soit pris en compte par les services concernés avec les moyens adaptés, mais sans jamais se substituer aux fonctionnaires en responsabilité.
On a l'impression à ce moment-là que le ministre de l'Intérieur se défausse en refilant la patate chaude au préfet de police. Et un peu plus tard, au cours de l'audition, Gérard Collomb s'en rend compte ou bien on l'en informe par SMS ou par tout autre message qu'il a peut-être commis une bourde. Alors il s'autorise une rectification.
J'en profite tout à l'heure pour rectifier quelque chose. J'ai dit que le préfet de police, c'était la préfecture de police qui était sans doute informée de la venue sur la manœuvre donc de Monsieur Benalla, pas forcément le préfet de police lui-même.
Ensuite, on lui demande pourquoi il n'a pas saisi l'IGPN, la police des polices, sur le fait que Benalla disposait d'un brassard et d'une radio, tout simplement parce que sur la vidéo qu'il avait vue à l'époque, Benalla n'en avait pas, et que c'est au lendemain des révélations du journal Le Monde, sur ce point-là, c'est-à-dire la semaine dernière, qu'il s'en est chargé.
Et puis il est interrogé, bien sûr, sur l'autorisation de port d'armes qui a été délivrée à Alexandre Benalla.
Autorisation délivrée alors qu'il n'est pas policier et qu'a priori il n'en a pas besoin. Réponse de Gérard Collomb.
Monsieur Benalla a sollicité à plusieurs reprises les services du ministère de l'Intérieur pour obtenir une autorisation de port d'armes. La première fois en 2013, puis en janvier 2017. et enfin donc avec mes prédécesseurs. Et enfin, en juin 2017, auprès de mon cabinet. Toutes ces demandes ont été refusées, car M. Benalla ne remplissait pas les conditions requises. Toutefois, par un arrêté du préfet de police du 13 octobre 2017, M. Benalla s'est vu délivrer une autorisation de port d'armes sur un autre fondement du Code de la sécurité intérieure, sans que mon cabinet n'en ait été avisé. Je l'ai découvert mercredi dernier.
Toute responsabilité sur ce point précis est donc à rechercher ailleurs. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Tout un tas d'autres questions lui ont été posées auxquelles il a aussi émis des fins de non-recevoir. Ce qui laisse dubitatif les députés, notamment les députés de l'opposition, notamment la députée Les Républicains Valérie Boyer.
Là, on a quand même un ministre de l'Intérieur très très mal informé pour un ministre de l'Intérieur. Mmh. Il ne connaissait pas M. Benalla, il n'en avait pas entendu parler. Il croyait que c'était un policier. Il ne comprend pas pourquoi il bénéficiait d'un véhicule avec gyrophare, etc., ni d'un appartement de fonction, ni d'un salaire mirobolant. Il ne savait pas non plus pourquoi cette personne avait été proposée au tour extérieur pour la préfecture. Il ne savait pas non plus pourquoi cette personne était lieutenant-colonel de réserve.
Gérard Collomb n'a donc, selon lui, pas été tenu au courant d'un certain nombre de choses. Il avait autre chose à faire et n'a rien à se reprocher.
Merci Stéphane Robert pour ce compte-rendu très complet de l'audition de Gérard Collomb à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête cet après-midi. Ce sera au tour du préfet de police de Paris, Michel Delpuech, de s'expliquer. À la croisée des frontières syriennes, israéliennes et jordaniennes, une opération inédite a eu lieu ce week-end. L'évacuation par l'armée israélienne de 422 casques blancs syriens et leurs familles depuis la Syrie vers la Jordanie via Israël. L'objectif, c'est de sauver ces secouristes opérant en zone rebelle, coincés par l'avancée des troupes d'Assad dans le sud du pays, qui les considèrent en effet comme des alliés de ces rebelles. Une partie d'entre eux n'a pas pu être évacuée, toujours sur place. Mais malgré cette action humanitaire d'envergure, pas question pour Israël d'accueillir les réfugiés en question qui iront au Canada, en Angleterre et en Allemagne. Cette opération illustre en fait la position d'Israël en Syrie, agir avant tout pour préserver l'intégrité de son territoire. En ligne de Jérusalem, Marie Semelin.
L'armée israélienne a largement communiqué a posteriori sur cette opération. Depuis 2013, elle agit avec de moins en moins de discrétion pour des actions humanitaires sur le terrain syrien. Livraison de tentes, de nourriture, de matériel médical. 4000 blessés, y compris des combattants, ont aussi été exfiltrés pour être soignés dans l'État hébreu avant d'être ramenés en Syrie. C'est la politique du bon voisin, comme elle a été nommée ici. Officiellement, Israël n'est pas un acteur de cette guerre, mais agit à sa frontière avec pour objectif déclaré de la préserver. L'objectif, améliorer l'image du pays, éviter des infiltrations hostiles sur son territoire et établir une sorte de zone tampon en cas d'attaque en provenance de Syrie. Mais son action est aussi militaire. Depuis le début de la guerre, l'État hébreu mène des frappes sur le terrain syrien, reconnu pour la première fois par l'armée en 2017. Avec la reprise du territoire par Bachar al-Assad, Israël répète comme un mantra sa ligne rouge. Il ne tolérera pas la présence des alliés du régime syrien sur ce sol, l'Iran comme le Hezbollah libanais. Cette nuit encore, d'après les médias syriens et l'OSDH, un raid israélien a été mené sur un site iranien de fabrication de missiles à l'ouest du pays. L'enjeu pour Israël est désormais de faire comprendre cette position à la Russie, alliée indéfectible d'Assad, pour que Moscou continue à tolérer ses interventions.
Marie Semelin à Jérusalem, ajoutant que Benjamin Netanyahou vient d'annoncer la visite en Israël du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et aussi du chef d'état-major russe Valéry Gerasimov, visite consacrée bien sûr à la Syrie. Nouveau tir de barrage verbal de l'administration Trump contre l'Iran. Le président américain s'est fendu cette nuit d'un de ses tweets fulminants dont il a le secret. Ne menacez plus jamais les États-Unis ou vous allez subir des conséquences telles que peu au cours de l'histoire en ont connu auparavant. Fin de citation. Réponse en fait de Donald Trump à une mise en garde du président Rouhani qui lui conseillait de ne pas jouer avec le feu. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est adressé quant à lui à la diaspora iranienne et incidemment d'ailleurs, et c'est peut-être plus important encore, aux Iraniens eux-mêmes pour les assurer du soutien des États-Unis face à un régime qualifié de mafieux. Il annonce le lancement d'un média qui serait un peu l'équivalent, Valérie Crova, de la Voix du Monde Libre au bon vieux temps de la guerre froide.
Oui, une sorte de Voice of America à l'attention des Iraniens en témoigne cette phrase prononcée par le secrétaire d'État américain. Les États-Unis appuieront la voix longtemps ignorée du peuple iranien, a martelé Mike Pompeo. Alors pour ce faire, l'administration américaine va créer une chaîne multimédia qui sera présente sur la télé, la radio et les réseaux sociaux à l'attention de tous les Iraniens, ceux de l'intérieur, si tant est qu'il puisse y avoir accès, et ceux de la diaspora. Cette chaîne émettra en langue farsie 24 heures sur 24. Elle sera lancée en amont des 40 ans de la République islamique qui seront célébrés l'an prochain, une date hautement symbolique pour le régime des Mollahs. D'ici là, les États-Unis parient sur une augmentation des tensions sociales qui risquent de s'aggraver avec le retour et l'aggravation donc des sanctions économiques sur l'Iran, ce qui fait déjà partir de nombreuses entreprises étrangères comme Total. C'est la conséquence directe de la décision américaine de se retirer de l'accord sur le nucléaire en mai dernier. Une première vague de sanctions touchera d'ailleurs dès le mois d'août le secteur aéronautique, civil et automobile. Suivront ensuite les secteurs de l'énergie, du pétrole, du gaz ou encore de la finance. Autant de moyens d'asphyxier l'économie iranienne déjà mal en point et de faire monter les mécontentements. Depuis qu'il est arrivé à la Maison Blanche, Donald Trump espère un changement de régime en Iran. Il mise sur la reprise des mouvements de contestation à l'intérieur du pays. On se souvient notamment en début d'année des manifestations contre la corruption et la cherté de la vie, manifestations qui ont été rapidement réprimées. Contestation également sur le plan sociétal avec ces jeunes femmes qui enlèvent leur voile ou qui dansent en public, bravant ainsi la loi islamique en vigueur en Iran.
Merci Valérie Krova. Réaction, la première réaction iranienne à cette offensive, encore une fois verbale américaine, réaction du chef de la milice iranienne Basij, c'est une branche des gardiens de la révolution islamique. Les déclarations de Trump relèvent d'une guerre psychologique. Donald Trump n'est pas en position, dit-il, d'agir contre l'Iran. Un homme a le don de compliquer singulièrement les relations diplomatiques entre l'Équateur et la Grande-Bretagne. Il s'appelle Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks, bien sûr, vit retranché en tant que réfugié au sein de l'ambassade équatorienne à Londres depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Il est sous le coup de poursuites judiciaires américaines. Le cas Assange est forcément au cœur de la visite du président équatorien à Londres. Lénine Moreno, élu il y a un peu plus d'un an, n'a jamais caché son exaspération face à la situation de Julian Assange. Officiellement, il participe aujourd'hui à un sommet international sur le handicap. Lui-même, rappelons-le, est paraplégique à la suite d'une agression subie il y a 20 ans. Les précisions de notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
Même s'il n'est plus officiellement recherché par la justice suédoise pour une accusation de viol, Julian Assange n'a toujours pas de sauf-conduit pour quitter l'ambassade. Londres lui reproche toujours d'avoir violé les conditions de sa liberté sur parole. Aujourd'hui, l'Équateur essaye de relancer les relations bilatérales complexes, selon le vice-ministre des Affaires étrangères, André Sterran.
Le cas Assange a définitivement compliqué les relations avec l'Angleterre. Je ne dirais pas qu'elles sont froides, mais elles ont perdu en intensité, même beaucoup. Mais aujourd'hui, nous avons repris le dialogue au plus haut niveau, à la recherche de nouvelles alternatives.
L'Équateur est d'autant plus pressé qu'il souhaite relancer ses relations, notamment économiques, avec ses partenaires stratégiques traditionnels de l'Union européenne, quelque peu délaissés sous le régime socialiste antérieur de Rafael Correa. Quito veut également normaliser la situation de son ambassade à Londres.
Vous savez, cela fait 6 ans et notre personnel s'est habitué. De plus, il n'y a plus autant de contrôles policiers. Le Royaume-Uni a allégé les mesures de sécurité et je crois que l'on peut dire que la situation est presque normale.
Selon le président Moreno, aucune solution à court terme n'est cependant en vue pour Julian Assange.
Eric Sanson depuis Quito. L'attentat suicide commis à Kaboul hier a fait 23 morts et 107 blessés, bilan encore provisoire. Il visait le général Dostum, chef de guerre et vice-président de retour d'exil, attentat revendiqué par l'État islamique. Parmi les victimes, un Afghan qui travaillait comme chauffeur pour l'AFP, l'agence France-Presse. Une image très symbolique en fait qui nous vient du Japon. Pour la première fois en effet depuis l'accident nucléaire de Fukushima, il y a plus de 7 ans, une plage proche de la centrale accueille des baigneurs avec l'espoir que cela contribuera à changer l'image de cette région du Japon. La tendance météo pour cet après-midi, grand beau temps sauf pour le sud des Alpes, la Côte d'Azur et la Corse menacées par des orages. Température maximale comprise entre 24 et 31 degrés, 33 à 35 sur le pourtour méditerranéen.